Bonjour. Le titre anglais du livre est une translittération du mot grec ecclésiaste, littéral, celui qui convoque une assemblée. L'auteur s'identifie comme le prédicateur, un roi régnant sur Israël, à Jérusalem, et comme un individu riche. Il existe une forte tradition attribuant la rédaction de l'Ecclésiaste au roi Salomon. Cependant, les chercheurs ont remis en question cette affirmation. De sorte qu'en général, contrairement à certains évangiles dont nous sommes sûrs de l'auteur, il n'existe aucune certitude concernant l'auteur de l'Ecclésiaste. Le fait est que l'auteur, dans sa vieillesse, a trouvé que tout dans ce monde était vide et dépourvu de sens. C'est de la vanité ou une vapeur. Cela devient le thème de tout le livre. Que les plaisirs sont vains, le travail acharné est vain, les richesses sont vaines, la sagesse elle-même est vaine. En somme, il semble que tout est vain. Le mot-clé qui est répété tout au long du livre est « sous le soleil ». L'auteur partage une perspective terrestre. Jusqu'à presque la toute fin, il considère principalement la vie « sous le soleil », c'est-à-dire une vie humaine vécue sans tenir compte de Dieu. Dans cette perspective sans Dieu, tout est en effet vanité. Cette semaine, j'ai eu une conversation le matin avec un jeune, car il avait une mine déconfite, et je lui ai demandé « Pourquoi as-tu l'air si triste ?» La réponse a été en gros « Parce que je vais à l'école, pourquoi devrais-je être heureux ?» Ma réponse a simplement été « Ô toi qui manques de connaissances, ne sais-tu pas que tu es en train de bâtir tes fondations ?» Certains d'entre nous, si nous avions l'opportunité de retourner à l'école, cette fois-ci, nous travaillerions beaucoup plus dur, nous sécherions, manquerions moins de cours, nous serions plus disciplinés, et nous ne jouerions pas autant. Dans une certaine mesure, l'Ecclésiaste est ce livre qui donne l'impression d'aller à l'école, mais en son sein se trouve la réponse à une vie véritablement significative sur Terre. Mon espoir est qu'aujourd'hui, vous compreniez certains de ces principes simples et que vous les preniez au sérieux, afin que lorsque vous serez vieux, vous ne soyez pas comme moi à dire « Si seulement je pouvais revenir en arrière, je ferais mieux les choses. » Mais il est trop tard. Ecclésiaste 12, 1, ESV 1. Souviens-toi aussi de ton Créateur au jour de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que s'approchent les années dont tu diras « Je n'y prends point de plaisir ». Avant que les jours mauvais arrivent, avant que tu ne deviennes vieux. Jetons rapidement un regard sur un groupe de personnes qui ont fait ce que dit l'Ecclésiaste, qui se sont souvenus de Dieu dans leur jeunesse. Quand je mentionne les disciples, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Quel âge pensez-vous ou imaginez-vous qu'ils avaient dans votre esprit? Certaines de nos images de l'âge des disciples sont influencées par la représentation la plus célèbre des disciples, qui est la peinture de la scène par Léonard de Vinci. Mais est-ce une bonne représentation de l'âge des disciples? Mais il ne s'agit pas seulement de l'âge, mais aussi de l'apparence de Jésus ou de celle des disciples. Gardez cette image à l'esprit pendant un moment et explorons ensemble. Les disciples. Matthieu 4, 18 à 22, appel de Simon, André, Jacques, Jean. Jésus marche le long de la mer de Galilée, appelant les pêcheurs à devenir pêcheurs d'hommes. Jésus appelle les premiers disciples. 18. Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et André son frère, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. 19. Il leur dit, « Suivez-moi, et je vous ferai pêcheurs d'hommes. » 20. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et le suivirent. 21. En poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, dans la barque avec Zébédée leur père, réparant leur filet. Il les appela. 22. Aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jean 1, 43 à 48, Jésus appelle Philippe et Nathanaël. 43. Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il trouva Philippe, et lui dit, « Suis-moi. » 44. Or Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. 45. Philippe trouva Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé dans la loi, et dont les prophètes ont aussi parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » 46. Nathanaël lui dit, « Peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » 47. Jésus vit Nathanaël venir à lui, et dit à son sujet, « Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y a point de ruse. » 48. Nathanaël lui dit, « D'où me connais-tu ? » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Mais qui étaient les disciples ? Dans le monde de la Bible, un disciple était une personne qui suivait un enseignant, ou rabbin, ou maître, ou philosophe. Le disciple désirait apprendre non seulement l'enseignement du rabbin, mais aussi imiter les détails concrets de sa vie. Un disciple suivait littéralement quelqu'un, dans l'espoir de devenir finalement ce que cette personne était. Quel âge avaient les disciples lorsque Jésus les a appelés? Lorsque Jésus a commencé son ministère, il avait environ 30 ans. Cela est explicitement mentionné dans Luc 3, 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Mais la Bible ne donne pas précisément l'âge d'aucun des 12 premiers disciples. Cependant, sur la base de quelques observations, les spécialistes fixent généralement une fourchette pour ce que leurs âges auraient pu être. Est-ce exact? Nous ne le savons pas, mais est-ce raisonnable, compte tenu du contexte culturel de l'époque? Oui. C'est un peu comme si, en remontant 200 ans en arrière, vous vouliez déterminer quel âge avait une personne lorsqu'elle est allée au lycée. Même sans son certificat de naissance, vous pourriez en avoir une assez bonne idée à partir des normes de l'époque, en fonction de l'âge auquel les enfants entraient généralement au lycée en 2026, ou de l'âge auquel les gens se mariaient en 2026, etc. Ainsi, cette déduction repose généralement sur ces principes. Premièrement, Jésus a dit à Pierre de payer la taxe du temple uniquement pour eux deux. La taxe du temple était exigée des hommes juifs âgés de 20 ans et plus. Mais Jésus a demandé à Pierre, dans Matthieu 17, 24 à 27, de la payer seulement pour eux deux, excluant visiblement les 11 autres. Deuxièmement, seul Pierre avait une épouse dans les évangiles. Matthieu 8, 14. Les autres se sont mariés plus tard. Il existait des normes culturelles claires pour le mariage dans l'Antiquité. Cela rend l'absence d'épouse remarquable. La référence de Paul, dans 1 Corinthiens 9, 5, suggère que les autres étaient plus jeunes, puisqu'ils se sont finalement mariés. Troisièmement, le contexte culturel du discipulat confirme leur jeunesse. Les disciples étaient généralement choisis à l'adolescence, après l'éducation religieuse de base, mais avant d'être pleinement établis. Les rabbins investissaient dans des élèves encore malléables, pas dans des hommes déjà ancrés dans une carrière, une famille et un statut. Jésus a probablement commencé son ministère vers l'âge de 30 ans, étant né entre 4 avant notre ère et 6 avant notre ère. Les disciples étaient dans une certaine mesure des jeunes, majoritairement non mariés, et généralement sans instruction, selon les normes de l'époque. Il est probable qu'ils aient tous eu entre 13 et 30 ans. Ainsi, la pensée générale est que la plupart d'entre eux avaient une vingtaine d'années. Mais l'idée principale est que la majorité d'entre eux n'avaient pas 40 ou 50 ans. Et c'est à ce groupe que Christ a confié le travail initial de la diffusion de l'Évangile. C'est en grande partie la raison pour laquelle nous sommes ici aujourd'hui.
Matthieu 28, 19 à 20.
Allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Réfléchissez un instant avec moi. Que se serait-il passé si tous les disciples avaient dit, « Pour l'instant, nous allons vivre notre vie. Jésus est retourné auprès du Père. Nous allons reprendre notre ancienne vie. Nous sommes encore jeunes. Nous ferons l'œuvre de Dieu lorsque nous serons plus âgés. Peut-être lorsque nous aurons pris notre retraite de la pêche, du travail professionnel, quand nous aurons plus de temps. »
Jérémie 1, 4, 8, l'appel de Jérémie. 4. Or la parole de l'Éternel me fut adressée, en ces mots. 5. Avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'ai consacré. Je t'ai établi prophète pour les nations. 6. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis trop jeune. » 7. Mais l'Éternel me dit, « Ne dis pas je suis trop jeune, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. »
8. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, déclare l'Éternel.
Il n'y a jamais eu personne que Dieu ait appelé qui se soit senti inadéquat ou trop jeune, et à qui Dieu ait dit, « Je reviendrai quand tu seras plus âgé, quand tu penseras être prêt. » L'appel de Dieu est plus important que ta propre préparation perçue, plus important que ton âge, plus important que la façon dont tu te perçois, plus important que la façon dont ta famille te perçoit, plus important que la façon dont la société te perçoit. Et il n'est pas soumis à ton emploi du temps. Tu ne peux pas le planifier. Tu ne peux pas le programmer. Il est là. Maintenant.
Psaume 95, 7-8. ESV 7.
Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple de son pâturage et les brebis de sa main. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, 8. N'endurcissez pas vos cœurs, comme à Meriba, comme au jour de Massa dans le désert. Ce même verset est cité plus tard dans Hébreux, mais le principe est, si vous entendez Dieu parler, répondez. Quand il vous appelle, répondez.
Mais pourquoi cet appel à se souvenir de Dieu pendant que nous sommes jeunes? Nous ne serons pas jeunes pour toujours. De peur que nous oublions. Quel âge as-tu? Ne le dis à personne, c'est ton secret, mais garde ce nombre en tête. Voici une nouvelle. Tu n'as pas toujours eu X ans. Tu as traversé différentes étapes de la vie, et tu en traverseras d'autres.
Il existe différentes théories sur les étapes de la vie, et celles-ci sont divisées différemment selon les spécialistes. Mais nous allons aujourd'hui nous en tenir à une version simplifiée de 5 étapes. 1. L'enfance, de la naissance à 12 ans. C'est la période du développement fondamental. Elle inclut la petite enfance, où l'on apprend les compétences motrices de base et les années de l'école primaire. Elle se caractérise par une croissance rapide et un niveau élevé de dépendance envers les personnes qui prennent soin de l'enfant. 2. L'adolescence, de 13 à 19 ans, la phase de transition entre l'enfance et l'âge adulte. 3. Jeune adulte, de 20 à 39 ans. Les principaux centres d'intérêt sont la fin des études, le début de la carrière professionnelle et la formation de relations intimes à long terme. Biologiquement, le corps humain est généralement à son apogée physique durant cette période. 4.
âge adulte moyen, de 40 à 65 ans. Cette étape est caractérisée par la stabilité et la notion d'héritage. La plupart des gens sont au sommet de leur carrière et peuvent élever des enfants. 5. Troisième âge, 65 ans et plus. Bien qu'il s'agisse souvent d'une période de déclin physique ou de retraite, c'est aussi le moment de revenir sur les réalisations de sa vie. L'accent est mis sur le maintien de la santé et la jouissance de la famille, mais parfois aussi sur le regard porté sur les regrets de la vie.
Ecclésiaste 3, 1-2, ESV 1. Il y a un temps pour tout, un moment pour chaque chose sous le ciel, 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Ainsi, nous tous dans la salle pouvons cocher la première case parce que nous sommes ici. Nous sommes nés, mais nous attendons tous de cocher la suivante, le temps de mourir. Mais, entre ces deux repères, il y a la vie. Il y a les étapes de la vie humaine. La question devient donc, à quelle étape devriez-vous commencer à vivre pour Dieu? À quelle étape devriez-vous commencer à servir Dieu? Alors, quelles sont les meilleures années de la vie? Quelles sont vos meilleures années de vie? Je ne vais pas les définir à votre place, mais je vais vous montrer les étapes générales de la vie. Quelles sont les meilleures années pour croire en Dieu? Quelles sont les meilleures années pour tout risquer et vivre pleinement pour Dieu? À quelle étape vous dites-vous que vous commencerez à faire l'œuvre de Dieu? Je dirais qu'à toutes ces étapes, en commençant dès l'enfance, mais bien sûr une fois que vous pouvez comprendre le message de l'Évangile du Christ. Pensez-vous que vous êtes encore trop jeune, Casting Hollywood? Je parlais avec mes enfants la semaine dernière, et ils parlaient des castings, ou des opportunités de casting qui sont maintenant disponibles dans l'industrie du film, lesquelles sont désormais accessibles au niveau mondial, et il est possible de passer des auditions en ligne, etc. Ils ont mentionné que certaines grandes recherches annuelles de talent visent souvent les jeunes âgés de 9 à 17 ans. Donc, en dehors de ces rôles où les enfants apparaissent comme des bébés, mais à partir du moment où l'on peut dire que l'enfant travaille, certains commencent dès l'âge de 9 ans, et parfois même plus tôt. Donc, en gros, les enfants peuvent commencer à travailler dès l'âge de 9 ans, voire même avant. Alors, vous êtes trop jeune pour travailler pour Dieu, mais vous n'êtes pas trop jeune pour travailler pour de l'argent? En tant que parents, nous disons que nos enfants sont trop jeunes pour travailler pour Dieu, mais nous disons que nos enfants ne sont pas trop jeunes pour travailler pour de l'argent. Quand il s'agit de Hollywood, de la célébrité et de la richesse, nos enfants ne sont pas trop jeunes. Laissez-moi vous montrer un verset que vous ne savez peut-être pas qu'il se trouve dans la Bible. Matthieu 6, versets 32 à 33. 32, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Or, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Notre problème, c'est que nous recherchons le monde et nous espérons qu'en faisant cela, automatiquement, la bénédiction du Seigneur viendra sur nous. Tandis que Dieu dit, non, cherchez-moi d'abord, alors automatiquement, la bénédiction suivra. Vieillissement. Aspect physique, Ecclésiaste 12, 1 à 5. Ecclésiaste 12 est généralement difficile à comprendre, parce qu'il est écrit en utilisant de la poésie pour décrire les étapes de la vieillesse. Donc si vous ne connaissez pas le sens de la poésie, vous manquerez sa signification. Vous voyez des choses comme « les gardiens de la maison tremblent » et « les meuniers cessent parce qu'ils sont peu nombreux ». Nous allons donc lire cette partie en utilisant une version plus facile à comprendre, expliquée de cette écriture, afin que sa signification devienne claire pour vous et que vous ne soyez pas confus ou perdus dans sa poésie. Voici comment ces versets sont rendus dans la version facile à lire, ERV. les problèmes de la vieillesse. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune. Avant que les mauvais jours arrivent. Avant que viennent les années où tu diras, j'ai gaspillé ma vie. 2. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es jeune, avant que vienne le temps où le soleil, la lune et les étoiles s'assombrissent pour toi. Avant que les problèmes reviennent sans cesse, comme une tempête après l'autre. 3. À ce moment-là, tes bras perdront leur force. Tes jambes deviendront faibles et courbées. Tes dents tomberont, et tu ne pourras plus mâcher ta nourriture. Tes yeux ne verront plus clairement. 4. Tu deviendras dur d'oreille. Tu n'entendras plus les bruits de la rue. Même la pierre qui moue ton grain semblera silencieuse. Tu ne pourras plus entendre les femmes chanter. Mais même le chant d'un oiseau te réveillera tôt le matin. 5. Tu auras peur des endroits élevés. Tu craindras de trébucher sur chaque petite chose sur ton chemin. Tes cheveux deviendront blancs comme les fleurs de l'amandier. Tu avanceras en traînant les pieds comme une sauterelle lorsque tu marcheras. Tu perdras tes désirs et ensuite tu partiras vers ta demeure éternelle. Les pleureurs se rassembleront dans les rues pendant que ton corps sera porté vers la tombe. En vieillissant physiquement, il viendra un moment où tu ne pourras plus faire certaines choses. Peu importe à quel point tu le désires. Tu ne peux plus nettoyer l'église. Tu ne peux plus courir d'une caméra à l'autre. Tu ne peux plus danser pour le Seigneur. Tu ne peux plus simplement monter sur cette scène et commencer à prêcher. Bien que cela n'affecte pas toutes les personnes âgées, il existe des maladies liées à la vieillesse qui peuvent encore réduire ton désir de servir Dieu à un âge avancé. Comme la maladie de Parkinson, affectant principalement le système nerveux central, elle entraîne des symptômes moteurs tels que des tremblements, une raideur et une lenteur de mouvement, ainsi que des problèmes non moteurs comme des troubles cognitifs, des troubles du sommeil et la dépression. Les symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent généralement vers l'âge de 60 ans, bien qu'ils puissent survenir plus tôt. La maladie d'Alzheimer, principale cause de démence, représente 60 à 70% de tous les cas. Elle débute généralement chez les adultes de plus de 65 ans, le risque augmentant avec l'âge. Cependant, elle peut débuter plus tôt. Elle peut entraîner des problèmes de pensée, de mémoire, de comportement, des difficultés à comprendre ou à exprimer des pensées, une perte de mémoire et de la confusion. Se perdre dans un endroit familier, perdre l'équilibre. À mesure que les symptômes s'aggravent, les personnes touchées nécessitent souvent une assistance 24 heures sur 24 pour les tâches quotidiennes comme la toilette, l'habillage et l'alimentation. Tout le monde ne la développe pas en vieillissant. La vérité est la suivante. Il se peut que vous arriviez à un point où vous ne pouvez tout simplement plus accomplir l'œuvre du Seigneur, même si vous le désirez, car mentalement ou physiquement, vous en êtes incapable. À mesure que vous vieillissez, le nombre de temps, le nombre d'années que vous avez sur cette planète diminue, ce qui signifie que le temps dont vous disposez pour accomplir l'œuvre de Dieu, le temps dont vous disposez pour avoir un impact pour le royaume, diminue chaque jour qui passe. Si Dieu a ordonné que vous viviez 70 ans, à chaque année qui passe, il vous reste moins de temps pour travailler pour Dieu, il vous reste moins de temps à consacrer à Dieu. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu qu'il n'a pas? Vous pouvez donner à Dieu votre temps. Dieu n'a pas votre temps, il vous donne du temps mais il n'y a que vous qui puissiez le lui rendre. Maintenant, il peut vous prendre du temps, mais vous seul pouvez donner à Dieu l'utilisation de votre temps. Dieu ne peut pas utiliser votre temps, à moins que vous ne le lui donniez. Cela signifie que Dieu ne peut pas vous obliger à le servir. Vous seul pouvez déterminer si vous servirez Dieu ou non. Conclusion. Quelle est la chose la plus précieuse que vous avez? Le temps. Pour les croyants, le diable sait que vous êtes déjà sauvés. Et il sait que, pour certains d'entre vous, il ne peut pas vous attirer ouvertement avec le péché, parce que vous êtes plus sages et comprenez les Écritures. Mais une chose qu'il peut faire, c'est vous faire perdre, oserais-je dire, gaspiller votre temps. Arriver à la fin de la journée et se dire, « Qu'ai-je fait aujourd'hui ? Je n'ai pas passé la journée à pécher, mais je n'ai pas non plus œuvré pour le Seigneur, mais j'ai perdu du temps. » Le temps est irréversible et irremplaçable. Une fois qu'il est passé, il est passé. Une fois qu'une journée est finie, elle est finie. Une fois aujourd'hui terminée, le 8 février 2026, vous ne revivrez jamais cette journée. Ne soyez donc pas seulement sur vos gardes contre le péché, mais aussi contre la perte de votre temps, contre le fait de faire défiler sans fin, ou sans même vous en rendre compte, 3 heures se sont écoulées, et ce sont 3 heures que vous ne récupérerez jamais. Vieillir en Christ. Psaume 92, 12 à 15, ESV 12. Le juste fleurit comme le palmier. Il grandit comme un cèdre du Liban. 13. Ils sont plantés dans la maison du Seigneur. Ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. 14. Ils portent encore des fruits dans la vieillesse. Ils sont toujours pleins de sève et verdoyants. 15. Pour annoncer que le Seigneur est droit, il est mon rocher, et il n'y a point d'injustice en lui. Salomon a dit ailleurs, « Il fait toutes choses belles en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. » Ecclésiaste 3, 11. Il y a de la beauté à toutes les étapes de la vie. Il peut y avoir de la beauté dans la vieillesse, lorsqu'il s'agit d'une vieillesse dans le Seigneur. Dieu veut se servir de vous, quel que soit votre âge. Nous commençons là où nous sommes, et le Seigneur s'occupe du reste. Quand commencent vos meilleures années? Égale, aujourd'hui. Ne pense pas à donner à Dieu le meilleur de toi-même lorsque tu seras vieux, lorsque tu n'auras plus de force, lorsque tu ne pourras plus prendre soin de toi-même et que tu auras besoin de quelqu'un pour t'emmener partout où tu dois aller. Si Dieu a ordonné que tu vives 70 ans, ne te dis pas que tu te donneras entièrement à Christ lorsque tu auras 50 ans, lorsque tous tes enfants auront terminé leurs études et seront partis à l'université, lorsque tu ne pourras plus voyager autour du monde pendant les vacances. Alors tu serviras le Seigneur. Ne donne pas à Dieu les restes de ta vie. Donne à Dieu les meilleures années de ta vie. Il t'a donné ce qu'il avait de meilleur, son Fils unique. Ne lui donnerais-tu pas toi aussi la seule vie que tu as à offrir, qui est la tienne? Donne à Dieu tes meilleures années. Toi en particulier, à qui la parole du Christ a été révélée dans ta jeunesse. Toi, à qui le Christ n'a pas été révélé seulement sur ton lit de mort, mais à qui il a été donné tout ce temps, toutes ces étapes pour lui offrir ta vie, alors que tu peux encore courir, alors que tu peux encore marcher, alors que tu peux encore penser, alors que tu peux encore te souvenir de sa bonté. Jean 15, 5, ESV, je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jésus est la véritable source de la vie. En dehors de lui, tout effort humain n'a pas de sens. Ce n'est que vapeur. Fin du sermon.